Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson.
Cube Radio.
Salut Nicole, je suis contente de te retrouver.
Oui, bonjour Geneviève.
T'as-tu profité de l'hiver en fin de semaine? Moi, je voulais savoir si t'étais une femme d'hiver. On ne te connaît pas beaucoup, Nicole.
Ben oui, je suis quelqu'un qui est très heureuse de vivre dans quatre saisons. Alors, j'ai du plaisir l'hiver, du plaisir l'été, au printemps moins quand les inondations, parce que je reste sur le bord de l'eau.
Oups,
mais ça c'est moins drôle. Mais à part de ça, j'aime bien toutes les saisons, honnêtement.
T'es-tu du genre à avoir fait un bonhomme de neige?
Peut-être pas le bonhomme, mais je m'amuse avec mes chiens beaucoup, beaucoup, qui ont beaucoup de plaisir dans la neige, eux autres.
Ah, fait que tu peux te revendiquer de l'après-couvre-feu, toi, parce que t'as des chiens. On peut voir Nicole Gibault, hein, après le couvre-feu, passer 8 heures promener son chien.
Même pas, je suis dans ma cour, puis ils sont avec moi, puis on a bien du plaisir, fait qu'on reste chez nous.
Faudrait peut-être que je te l'emprunte, Nicole, pour pouvoir aller marcher. Mais en fin de semaine, je me cherchais un chien à promener, sans blague. Pas après le couvre-feu, avant. Parce que je trouve que marcher sans but, sans chien, ça comme pas. Je sais pas, c'est comme moins le fun. OK, on se parle de différents sujets liés à la justice qui ont attiré notre attention. On revient sur le cas malheureux de cette fillette de Laval. Premier meurtre, malheureusement, de cette année. Une enfant de 7 ans. La femme accusée de négligence criminelle ayant causé la mort de cet enfant-là a été libérée sous condition.
Oui, j'attends une information. Je sais pas si quelqu'un, mais oui, moi je suis. Je me demande la question suivante pour l'avoir vécu, comme je te dis, à peu près, je sais pas combien de tonnes de fois. Mm-hmm. Est-ce que ça a été une requête pour remise en liberté contestée? Est-ce qu'on s'est argumenté devant le tribunal où la couronne et la défense se sont entendus, ce qui arrive à peu près à 90% dans les cas? Et d'après ce que j'ai compris ce matin, c'est pour que ça se termine rapidement, je vais aller à l'hypothèse que c'est probablement une entente. Et ça, je dis bien sous toute réserve, je vais probablement obtenir le renseignement très, très rapidement, peut-être pendant qu'on va se parler.
Mais tu nous le diras.
Oui, c'est ça. Une demande de liberté. Premièrement, la règle, c'est la mise en liberté. Ça, c'est au code criminel. Parce que pourquoi? Parce que c'est fondé sur la présomption d'innocence, puis etc. On comprend tout ça. Accepter qu'il y a un renversement de fardeau de preuve. Et évidemment, il y a des critères. Il y a des critères, j'entendais par contre le procureur, l'avocat de madame qui disait qu'on voit pas là, qu'il y ait un problème pour la simple et bonne raison qu'elle ne représente pas un danger pour la société. Mais c'est pas le seul critère. Honnêtement, là, il y a beaucoup d'autres critères. C'est pour ça que peut-être que c'est plus négocié qu'autre chose. Maintenant, ce que je pourrais vous dire là-dessus, c'est que il y a un critère qu'on a toujours mis de l'avant depuis l'affaire Turcotte, c'est évidemment que cette détention ou ce manque de détention, si on ne détient pas cette personne-là, ça minerait la confiance du public envers le système d'administration de la justice. Mais je viens recevoir une information à l'effet que ça semble être une entente.
Bon.
Alors, si c'est une entente, je peux un petit peu plus comprendre parce qu'à mon avis, on aurait probablement plaidé le critère de miner la confiance du public dans l'administration de la justice, à moins parce que c'est un critère qui est fortement lié à la preuve, dans le dossier. Si c'est une preuve, oui, une bonne preuve, une très bonne preuve, mais où il y aurait une possibilité de défense assez évidente. On fait attention dans ce temps-là pour la remise en liberté fondée sur cette condition-là, entre autres. En tout cas, il semble, sous toute réserve de confirmation officielle, que c'est une entente. Donc, le procureur de la Couronne, le procureur de la Défense, pour toutes les raisons qui leur appartiennent, parce qu'on veut pas dévoiler grand-chose. Hein. Puis même nous, moi, je me souviens très bien quand on me disait « on s'entend pour remettre l'accusé en liberté », on n'a aucun contrôle. Hein. Faut que les gens sachent ça. Il n'y a pas un juge qui a un contrôle sur la décision du procureur de la Couronne de remettre quelqu'un en liberté. On ne peut pas dire « ben moi, je suis pas d'accord, faites l'enquête sur remise en liberté, puis c'est moi qui va décider comme juge ». Ça se fait pas. Et évidemment, lorsqu'on passe à l'étape que c'est le juge qui décide, oui, là, ça va. Mais alors, voici, c'est pour ça, puis Je sais que c'est accompagné, parce qu'on l'a vu, là, et c'est ce qu'on me confirme, on a vu que c'est accompagné de plusieurs conditions, dont des conditions de ne pas communiquer avec certaines personnes. Je pense qu'on comprend ce que ça veut dire, là, Geneviève, parce qu'il y a plusieurs personnes qui étaient des témoins d'intérêt.
Plusieurs adultes.
Exact. Alors, on a demandé, évidemment, de ne pas communiquer. Puis ça, c'est des conditions qu'elle doit respecter. Souvent, il va falloir qu'il loge ailleurs, là, je sais pas. Et on a sorti le tout avec un dépôt en argent de 1 000 $. Et je pense que la mise en garde du tribunal à ce moment-là, c'est si vous brisez une seule condition, vous retournez en dedans. Mmh. Alors, ça a été fait, mais on comprend pas. C'est pas le crime qui parce qu'on dit c'est tellement horrible, pourquoi on en est venu à cette conclusion-là? Ben, il y a peut-être quelque chose qu'on va devoir comprendre éventuellement au fil de cette tragédie énorme. Qu'est-ce qui se passe là? Le pourquoi du comment? Mais il reste qu'un enfant qui est décédé dans des conditions atroces.
Oui, puis attends, moi j'ai bien de la misère à croire qu'il y avait d'autres adultes qui habitaient avec cet enfant-là puis qu'à aucun moment on n'ait rien dit.
Ben moi aussi. J'ai beaucoup de misère et j'ai vraiment hâte de comprendre. Je suis à l'affût d'avoir des réponses là-dedans. Puis évidemment, j'en ai pas, tout comme le public en général. Pourquoi une seule accusation? Est-ce que ça veut pas dire non plus qu'il n'y en aura pas d'autres, là, Geneviève? Ça veut juste dire qu'au moment où on se parle, on n'en dit pas trop, probablement pour des raisons d'enquête et de technique importantes pour le DPCP ou les enquêteurs. Moi, je fais confiance pour le moment. Là, j'ai hâte de voir comment on va l'expliquer par la suite.
Bien, on va en reparler, évidemment, de ce dossier-là, Nicole. Autre suivi d'un dossier dont on discutait ensemble la semaine dernière, le cas de Vincent Alexandre Brodeur. Tu sais, c'est cet homme qui avait été leurré par une policière qui aurait sollicité les services sexuels d'une mineure. Là, je peux arrêter de dire « aurait » parce qu'il a été reconnu coupable de les avoir sollicité, ces services-là.
Oui, puis c'est au terme de délibération, en fait, le procès de la semaine dernière. On a parlé au jour 1, pratiquement au jour 2, et puis on suivait un petit peu le dossier ensemble.
Mais devant jury, donc toujours un peu.
Exactement, on faisait attention aussi, mais il y avait le témoignage, on rappelle aux gens, la policière a dit que, bon, évidemment, elle avait fait une espèce de scénario, puis elle avait mis des annonces, il a répondu à l'annonce, elle l'avait mis en garde deux fois plutôt qu'une et plus, qu'il s'agissait de personnes mineures. Il a nié, parce qu'il a décidé et choisi de témoigner. Il a nié tout ceci, mais et on le rappelait, la dernière intervention qu'on a faite ensemble, c'est le jury qui a la responsabilité de voir s'il croit un, l'autre, un peu des deux, etc. Alors, clairement, aujourd'hui, après 3 jours de délibération, apparemment, ils l'ont déclaré coupable de ceci. Et il est complètement atterri. Il a fondu, apparemment, dans la salle de cour, fondu en larmes, et etc., là, parce qu'il ne pouvait pas croire que cette décision était intervenue, mais c'est la décision
du juge. Bon.
Mais à ce moment-là, ben on sait très bien que l'appel existe toujours, là, mais si c'est juste sur une question de fait, il va avoir de la misère. Il ne
sera pas braillé d'avoir sollicité les services sexuels de jeunes filles de 16 ans.
Bon, alors, c'est la décision du jury.
Triste histoire, Nicole, une quadragénaire qui aurait été poignardée à mort par son propre fils, qui a 23 ans. Ça s'est passé tôt hier matin dans un logement du plateau Mont-Royal, donc à Montréal. Vraiment, les réactions des proches, c'est la consternation des gens qui disent qu'ils étaient super gentils avec sa mère, qui comprennent pas comment ça a pu se produire. Un peu le même type de commentaires qu'on voit souvent dans ces cas-là. Et je spécifie là pour qu'on comprenne bien, cet homme-là, donc le fils de la dame en question, Francis Normand, habitait avec sa mère depuis plus d'un an au rez-de-chaussée dans un triplex. Et ce qu'on dit, et bon, évidemment, je sais pas si on peut dire que c'est confirmé, mais c'est dans le journal, l'homme qui aurait des problèmes de consommation de drogue. Je sais pas si ça explique cela, mais est-ce qu'on est encore, Nicole, devant une histoire de santé mentale, de consommation et de manque de ressources? C'est quand même permis de se poser la question quand on regarde tout ça aller.
Ah, c'est tout à fait permis de se poser la question. On ajoute le tout dans un contexte de pandémie, exact, avec des restrictions, avec une espèce de sensibilité à la santé mentale de tous les citoyens, mais beaucoup exacerbé par, évidemment, toutes les consignes et toutes les... Ben, c'est sûr qu'on est dans un contexte assez particulier et malheureusement, les excès ou les abus, et oui, c'est vrai, moi aussi, j'ai lu exactement, en restant toujours prudent parce qu'on sait pas, parce que c'est pas...
Mais c'est des oui-dire de voisins, de personnes, c'est fait ça. Que c'est pas validé exactement. Devant un tribunal, là, donc c'est pour ça qu'on est toujours un peu prudent, puis c'est normal.
Mais ce qu'on se dit, par exemple, ensemble, et ça, on a le droit comme société de se dire, c'est très, très désolant de voir qu'à travers tout ceci, peut-être qu'on manque d'effectifs, d'effectifs, on manque de probablement de personnes, ressources, et aussi, pauvre dame, là, est-ce qu'elle, on le saura probablement, même si il était pas connu nécessairement, tu sais, Geneviève, les parents, souvent, agissent eux-mêmes comme psychologues de leur propre enfant.
Comme aidant naturel, comme psychologue, comme travailleur de rue,
tout le kit. Alors, est-ce qu'elle a tout essayé, puis aussi, tu sais...
Est-ce qu'elle était accompagnée? Parce que moi, c'est une discussion que je vais avoir tantôt avec Lionel Carman. Il va être avec nous à la fin de l'émission parce que on a ces consultations là sur l'effet de la pandémie sur la santé mentale des Québécois. Oui. Il y a plusieurs parties qui demandent de rendre les soins psychologiques plus accessibles pour éviter justement cet exode vers le privé. Puis c'est aussi, je pense, le temps qu'on regarde ça. Puis je pense que c'est un des objectifs de la consultation, là, qu'on prenne les cas de ces personnes-là, qu'on les regarde avec une loupe pluridisciplinaire, parce qu'à un moment donné, ça prend un encadrement qui est global.
Encore faut-il qu'il y ait des ressources disponibles, puis encore faut-il qu'il y ait du personnel, puis encore faut-il que... Alors, tout ça est énormément sollicité dans ces temps de pandémie, là, dans cette vague-là. Alors, c'est sûr que peut-être que dans un autre contexte, il y a plus de disponibilité, mais en ce moment, tous les gens qui sont spécialisés dans ceci sont probablement sollicités de partout, là, que ce soit dans n'importe quel cas, pour les familles, pour les aidants naturels, pour les gens au fond. Ça doit pas être facile. Il faut qu'ils soient accompagnés, mais tout le monde.
Mais il faut faire quelque chose, là, parce que pendant ce temps-là, pendant qu'on attend, pendant qu'on fait des consultations, il y a des gens qui perdent la vie, comme cette petite fille à Laval et cette mère aux mains de son propre fils. On termine en se parlant d'une histoire qui avait beaucoup frappé mon imaginaire, Nicole, l'histoire d'une fausse infirmière. Une fausse infirmière qui a œuvré pendant, tiens-toi bien, 20 ans comme infirmière, pardon, à l'hôpital de Jonquière. Elle n'avait pas de permis de l'ordre des infirmiers et des infirmières du Québec. Elle a plaidé coupable aujourd'hui au palais de justice de Chicoutimi. Mais juste avant que je te parle de la sentence à laquelle elle s'expose, cette dame-là, elle a officié quand même dans des départements assez prestigieux de l'hôpital, là, à l'urgence. Elle a donné des soins au bloc opératoire. Tu sais, on l'accuse de pratiques illégales, mais en même temps, elle avait les compétences pour le faire puisqu'elle le faisait pendant 20 ans. Puis je dis pas qu'elle a eu raison de le faire, mais c'est une histoire très, très particulière et elle s'expose à une amende de 100 000 $. Faut qu'elle la paye dans 18 mois, puis beaucoup de travaux communautaires.
Oui, non, mais c'est extrêmement particulier. Puis on a une chose auquel on peut se référer, c'est Dieu merci qu'il n'y ait rien arrivé.
Et mais
c'est
bien
à peu près le commentaire que j'ai le commentaire qui a été donné par le procureur de la Couronne, parce que là, encore une fois, même si on n'a pas beaucoup d'informations, c'est clair dans ma tête que c'est une représentation commune pour une sentence qui a été faite. Je ne pense pas qu'on a plaidé là une chose puis quelque chose. Puis,
non,
puis
on a demandé 2 ans moi un jour.
Non, c'est ça. Alors, elle a eu le maximum de toutes les sentences qu'un juge peut donner avant d'aller au pénitencier. 2-1, parce que c'était ouvert, donc en communauté, à 2, il ne pouvait pas aller en communauté, elle ne pouvait pas rester à la maison. 240 heures de travaux communautaires, c'est le maximum, on ne peut pas aller à 241 heures de travaux communautaires et 100 000 d'amende. Bon. Encore une fois, il n'y a pas eu de perte de vie, il n'y a pas eu de soins. Puis j'entendais plus que ça, on se serait rendu compte dans une salle d'opération où elle aurait été présente lorsqu'on demande des instruments, tu sais, ben, peut-être que c'était pas de la bonne façon de donner ou de... Mais au moins, on n'a pas eu d'utilisation, elle n'aurait pas utilisé ce genre de... Mais ce qui est important, là, c'est que, bon, elle est grandement... c'est grandement excusée, mais moi...
Ben, j'espère. Là, c'est grandement excusée, Nicole, imagine.
Non, mais je suis même pas, moi, c'est même pas ça, là. Moi, je peux pas comprendre pendant 20 ans.
Mais c'est ça, je te dis. Ils s'en sont pas rendus compte. Ça devait être parce qu'elle faisait des affaires comme du monde. Elle était préposée aux bénéficiaires avant. Puis je me rappelle, on en avait parlé de son cas quand c'était sorti, cette histoire-là, de Mme Nathalie Bélanger. Et, des infirmiers me disaient, ben, écoutez, là, elle a dû apprendre sur le tas, elle a dû regarder, puis quand t'es infirmière au bloc, tu poses des gestes, entre guillemets, médicaux, là, tu calcules des doses, tu analyses des médicaments. Donc, en quelque part.
Je comprends pas parce qu'on essaye de, tu sais, quelqu'un va essayer n'importe quoi au niveau fiscal ou, tu sais, 10 piastres, tu sais, puis ils sont scrutés à la loupe.
Ils n'ont jamais checké son permis, son numéro.
20 ans, c'est presque hallucinant. J'aurais compris un an, deux, une couple de mois, etc. Mais 20 ans? Et certains de ses collègues s'en rendaient pas compte non plus. Ses collègues, c'est-tu des collègues? C'est, ben oui, 20 ans, c'est quasiment... que ça passe en dessous de la barre comme ça, là,
c'est quand même assez... puis ça mène la crédibilité de la profession au sein des yeux du public, et ça, c'est terrible. Et cette dame-là, Nathalie Bélanger, donc, s'expose 2 ans moins un jour de prison, 100 000 $ d'amende, 240 heures de travaux communautaires. Elle a dit qu'elle souhaite quand même à nouveau pratiquer son métier de préposé aux bénéficiaires, mais dans une résidence privée. En tout cas, moi, je ne l'engagerai pas.
Non, alors probablement que c'est ça, mais effectivement, elle a obtenu sa sentence là-dessus. Alors, je suis certaine que c'est une représentation commune, comme on dit souvent ensemble. Là.
Merci. On se reparle demain.
Oui, au revoir.
Bye.